fois. Ce que je pense faire comme programme à venir qui est très différent. Et je vous avais parlé de l'idée qui était de faire des chapitres autour de, je prends une œuvre, un site, etc. Et autour, j'essaie d'analyser, de broder, de donner des éclairages. Et donc, j'avais pensé le faire de façon chronologique, plutôt que de faire toute une période qui est vaste. Et je n'avais pas remonté non plus jusqu'à la fin des temps, quoique. Et je voulais commencer avec le site que vous connaissez peut-être de Sataluyuk en Turquie, qui est un site exceptionnel du Mésolithique et qui pose plein de problèmes, notamment sur les questions de la divinité féminine, comme un ancien monothéisme peut-être disparu, et pourtant très répandu pendant des millénaires. La question des statues couples en Égypte et des répercussions jusque d'ailleurs jusqu'en Afrique presque contemporaine au niveau de la sculpture. Je voulais aborder justement la question de Cybèle, C-Y-B-E, accent gravelleux, hein, pas Cybèle, en Grèce aussi, là encore, donc il y a une thématique, parce que je combine un petit peu aussi la question de femme et artiste, puisque j'ai fait aussi des cours là-dessus, et je voulais réintroduire la question de la représentation et du masculin et du féminin dans pas mal de pratiques artistiques, parce qu'en fait, c'est une part un peu maudite et cachée, et qu'on commence à redécouvrir. Donc il y a des pistes très intéressantes. C'est des découvertes assez récentes et à mon avis intéressantes, à mon avis pertinentes. Alors la colonne Trajan, un peu particulière, le mausolée de Galla Placidia, les Beatus de Libana comme premier manuscrit intéressant, enfin, le Books of Kell, peut-être la tapisserie de Bayeux, Vitro de Chartres, Tacunum Sanitatis qui est un manuscrit du bien vivre, Christine de Pisan, ensuite la chapelle Scoveni et Adam et Ève. Les époux Arnolfini, donc souvent le masculin et féminin aussi, la manière dont c'est représenté, puis les enjeux. L'annonciation aussi, encore un rapport masculin-féminin et la question de la féminité. Nolim et Tangere, c'est aussi une scène biblique de la réapparition de Jésus à Marie-Madeleine avec pas mal d'enjeux derrière. Donc voilà, ça fait un chapitre, à chaque fois ce sont des œuvres, mais il y a quand même une sorte de thématique globale autour, la plupart du temps, quand même du masculin, du féminin et des nouveaux regards qu'on trouve dans des recherches contemporaines sur soit les artistes femmes, soit la représentation des femmes dans des pratiques, dans des cultures, et puis aussi les enjeux qui sont derrière. Puisque c'est jamais fini, il n'y a qu'à voir les manifestations aux États-Unis, il y a quand même des enjeux qui sont toujours intéressants. D'ailleurs, je reprends aujourd'hui là où j'avais laissé. Je crois que je vous avais abandonné avec Louise Bourgeois, mais j'ai récupéré depuis des documents que j'avais un peu oubliés. C'est toujours Louise Bourgeois. Alors rappelez-vous, on est sur graphisme, sculpture, hein, la question de la ligne et le volume en gros. Et Louise Bourgeois, j'ai vu avec la question de l'araignée. Alors la question de l'araignée, j'avais un peu oublié ce détail. Bon, j'attends. Je vous en prie, ça glisse, il paraît. C'est que la famille de Louise Bourgeois était une famille de tapissiers restaurateurs de tapisseries murales, de tapisseries Aubusson, Gobelin, etc. Et qu'est-ce que je veux dire? Elle a toujours vécu au milieu des fils. C'est tout bête. Hein. Et dans un milieu un peu fermé, dans lequel on était en train de ravauder, rapiécer, rénover, restaurer, etc. Plus, sa mère est décédée quand elle était relativement jeune, et sa mère l'a protégée un peu de cet environnement un peu oppressant, dans lequel en plus le père était très autoritaire, bien que bienveillant, mais très autoritaire. Mais elle s'est sentie un peu trahie par son père quand, c'est des anecdotes, mais son père a vécu avec sa maîtresse dans l'atelier, sous les yeux de sa mère, etc. Et donc c'est quelque chose qu'elle a un peu mal vécu, etc. Bref, toujours est-il que l'univers intérieur, l'univers de l'atelier, l'univers des fils, des cloisons, des prisons, des cages aussi, c'est quelque chose qui fait un petit peu l'univers de Louise Bourgeois, entre autres. Après, il y a toute la question du corps, mais sur laquelle je ne reviendrai pas. Et elle a fait notamment ces espèces de grandes cages, ce qu'elle appelle des cellules, hein, des sortes de pièces, qui sont en fait justement en grillage, et alors pas que en grillage, mais une majorité d'entre elles sont en grillage, avec cette idée aussi, comme la mer, hein, la cage à la fois elle protège, et en même temps elle enferme. On met les petits oiseaux en cage, mais on met aussi les prisonniers en cage. Les petits oiseaux, c'est pour pas qu'ils se fassent bouffer. Donc, si vous voulez, vous avez un côté à la fois d'un cocon protecteur et une structure ensuite qui est une structure à la fois transparente et physique, en même temps transparente et repérable, puisqu'elle est faite que de fils, etc. Donc vous voyez qu'il y a une cohérence hein, chez Louise Bourgeois, par exemple, dans ce rapport entre son thème, les outils qu'elle utilise, comme par exemple ici, hein, on le voit très clairement, avec l'idée du corps et de l'organe qu'elle va explorer. Alors ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais que l'on voit dans ces installations, on appelle ça des cellules. Alors le côté organique aussi, et puis vous avez évidemment la question de la toile d'araignée, qui est faite que de fil, qui est une structure à la fois très légère et en même temps très linéaire et en même temps très solide. Alors voyez comment est-ce qu'une artiste peut... Alors là on a d'ailleurs la combinaison des deux, hein, puisque l'araignée mère est en train de protéger à la fois, d'être une sorte d'excroissance, c'est comme si en même temps, on avait tissé un cocon. Alors vous avez chez Louise Bourgeois aussi l'idée du cocon, hein, le cocon qui peut être à la fois le cocon de la larve qui va renaître, mais chez les araignées c'est aussi le cocon de ce qu'elle va emprisonner pour le dévorer. Donc toujours cette espèce d'ambiguïté très subtile de Louise Bourgeois. Alors l'idée de l'enfermement, c'est quand même pour une femme qui est née au début du... à la fin du 19e siècle, je crois qu'elle a... Non, au début du 20e siècle, elle a vécu presque 100 ans. Hein. L'idée du monde intérieur, c'est effectivement aussi, on va voir chez pas mal d'artistes femmes, c'est quelque chose qui pendant tout le XXe siècle et les siècles précédents était vraiment aussi une thématique presque imposée, puisque c'est l'idée qu'on ne sort pas de chez soi, hein, tout ce qui est intérieur à la maison, le linge, les habits, la cuisine, les tissus, les pièces, les chambres, le ménage, les ravaudages, le complexe de Pénélope aussi, la tapisserie, etc. Tout ça, ce sont des mondes un peu intérieurs. L'idée de la cage, c'est quelque chose qui est aussi une thématique, on va dire, assez largement développée par ces femmes. Et puis, chez Louise Bourgeois, bon ça c'est pas Louise Bourgeois, vous avez aussi évidemment la question du corps, puisque presque tout ce qui est pratique autour de la maison sont aussi liés au corps. Soit les linges, les meubles, la nourriture, les vêtements, les pièces, tout ça c'est quelque chose aussi, on est dans des rapports qui sont très proches du corps et du corps physique. Hein, donc vous avez là, une grande thématique totalement cohérente chez elle. Alors, quelque chose qui n'a rien à voir, mais on est toujours, ça a à voir au niveau, on va dire, plastique, c'est le rapport toujours entre le domaine graphique linéaire et la sculpture et l'espace réel. C'est l'artiste Daniel Buren, vous connaissez, qui est connu pour ses bandes. Sa signature, quelque part, ce sont ses bandes, espacées toujours d'une même... espace, je crois que c'est 6 ou 7 cm, etc., des bandes verticales. Une fois qu'il en a fait sa signature, on les voit au début avec un certain humour, c'est-à-dire que c'est lui, c'est un peu comme s'il avait une sorte de logo personnel, hein, puisque là on le voit se promener dans une galerie de peinture où tous les artistes ont mis leur œuvre. Lui, il se trimballe avec une sorte d'œuvre portative, c'est le gilet qu'il a cousu, ce sont ses bandes. Au début, c'est apparu un petit peu comme une sorte d'art conceptuel. Hein, on va dire comment est-ce qu'on peut s'approprier un graphisme simple, comme une signature au sens strict. Signature, c'est un petit geste graphique personnel. Là, c'est quelque chose d'un peu plus neutre. Et ensuite, l'intérêt de Buren, c'est qu'il va confronter ce registre, ce petit marquage, à des espaces de plus en plus complexes. Comme on a vu dans les cabanes, ici, hein, dans ces espèces de cabanes, dans lesquelles finalement, si on déploie ce graphisme dans l'espace, ça va modifier la perception de l'espace, avec les éloignements, les trous, les continuités, etc. Bon, alors, je ne dis pas que c'est génial, mais il le fait beaucoup. Là, évidemment, avec les colonnes de Buren qui vont être une sorte d'écho à la colonnade, d'abord par les colonnes, et puis par les rythmes, blanc, sombre, sombre, clair, sombre, clair, sombre, clair. Toute une architecture qui est faite de rythmes et de variations, qu'il va reprendre ici avec des colonnes, qui cette fois-ci vont s'enfoncer plus ou moins, toujours de noir et blanc, jeu d'échec, une sorte d'écho sculptural, hein, très simple, avec sa signature. Alors, il n'a pas d'autres prétentions. Hein, Buren, d'ailleurs, dit qu'il n'est même pas peintre, il n'est même pas artiste, il est un peu une sorte de technicien des formes. Hein, il reprend de ce point de vue-là l'ancien point de vue des constructivistes russes, hein, de manière de dire il ne s'agit pas là d'exprimer des sentiments, mais d'être d'une sorte d'ingénieur de la vision, ingénieur des formes. Hein, comme s'il était une sorte de... Et ces bandes servent de révélateurs. Alors par contre, par exemple ici, hein, ça peut être sur une façade, hein, totalement changer la perception qu'on peut avoir des volumes, des rythmes, etc. Juste une chose, c'est que Buren, là, maintenant, il varie de manière... un petit peu trop extravagante à mon avis. Je suis allé à la fondation Louis Vuitton là, l'autre jour, voir l'exposition Shtchoukine, et il a fait des installations colorées sur les voiles, les structures de Frank Gehry. D'abord, c'est plus des bandes, c'est juste du papier coloré, du papier de bonbons coloré. Il n'y a plus cette espèce de rigueur, parce que jusqu'à présent, tant qu'il faisait que ces bandes, je trouve qu'il y avait une sorte de rigueur et un jeu assez intéressant. Là, j'ai l'impression qu'il se caricature lui-même, et je trouve que ça gâche toute l'architecture. C'est même plus un dialogue, c'est quelque chose de plaqué. Voilà, les limites de Buren, je pense que ça aurait été plus intéressant qu'il continue. Enfin, c'est pas mal de faire ces trucs. Oui, par dialoguer justement des bandes verticales avec la folie, au contraire, des formes de Frank Gehry. Je crois qu'il s'est un peu oublié dans ses... Et puis, bon, il a de grands réseaux, il a des grands moyens, donc personne ne lui demande trop. Donc voilà, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est passé d'un graphisme, on peut dire, minimal, absolument minimal, à la confrontation avec des espaces et des volumes architecturaux de façon assez claire. Alors, toujours ce rapport entre le fil, la ligne et l'espace, vous avez certains artistes qui le font avec un certain humour. Ici, c'est Alice Anderson, c'est une jeune artiste. Quand je dis jeune, elle doit avoir 40 ans à tout casser, donc c'est très jeune, vous êtes d'accord. Et donc Alice Anderson, qui là travaille avec des fils qui évoquent évidemment la chevelure de réponse, etc. Et des installations comme par exemple ici, où tout d'un coup les cheveux, comme des cheveux, la couleur cheveux, vont déborder, dépasser de partout. Alors, quelque chose d'extrêmement ténu, là on joue sur la quantité, et puis il y a une occupation de l'espace, et puis la connotation évidemment du cheveu, les cheveux de qui, où, alors toujours l'emprisonnement, la sensualité, quelque chose de fluide et en même temps qui va dialoguer avec la minéralité de l'espace, les façades, les pièces, la pierre, etc. Donc, et puis toujours une figure absente. Alors cette idée de l'emprisonnement aussi, on va la retrouver dans Réponse, etc. Femme emprisonnée qui va laisser seule ses cheveux fluides. Hein. Alors, on est quand même dans le domaine de la sculpture. Hein. Et en même temps, l'effet graphique est très intéressant. Par exemple, par les ombres, par la lumière, par les densités, les dégradés, les modelés. Donc vous avez finalement un usage du graphisme, en fait, qui est loin d'être sot. Vous avez des artistes comme ça aussi, comme Tony Cragg, alors. C'est un artiste anglais contemporain, d'avoir à peu près 70 ans, c'est la génération des pop anglais, peut-être 75 ans à peu près, comme David Hockney. Et c'est un sculpteur très prolifique, très, très subtil, etc. Mais une de ses pratiques artistiques, pas la seule, c'est de transformer la perception de certains objets en modifiant leur extérieur. Par exemple, ici, entouré de ficelles. Ça peut être, il va par exemple planter des clous aussi sur un tas d'objets, tout d'un coup, de façon à ce qu'on ne voit plus que les clous, et on ne voit plus l'objet. Ce sont des reliefs, avec donc des opérations très minimales, comme par exemple celle-ci, révéler des volumes, les rendre mystérieux, toujours avec l'outil minimal, c'est-à-dire la ligne, surtout quand on est sculpteur, parce que la ligne, effectivement, c'est la dimension 1. Donc voilà un travail intéressant de Tony Cragg. Alors ça, je passe, alors c'est un truc tout bête, j'oublie son nom. Mais je sais qu'il est à Detroit, aux États-Unis. C'est un souffleur de verre, donc il y a un musée même à son honneur. C'est un artiste souffleur de verre, mais qui fait des sculptures gigantesques en verre soufflé, en une sorte de tuyau comme ça, qui vont se proliférer dans tous les sens. Et il a une sorte de serre qui est envahie de ces espèces de rubans, de serpentins, de filaments fragiles, de toutes les couleurs. Il a repris la technique des lustres de Venise, qui était effectivement verre soufflé, transparent, etc., mais au bénéfice de sculptures totalement libres. Alors, il y a le côté de la prolifération, le côté végétal que l'on avait vu aussi avec Calder, c'est-à-dire que les végétaux aussi, il y a quelque chose de linéaire, hein, parce que c'est une ligne qui va se déployer, la structure, les veinures, les structures même d'une plante, d'un arbre ou d'une feuille, et donc cette idée-là est assez intéressante, et puis la prolifération, la quantité qui commence à prendre du sens. Alors, si vous tapez vert soufflé Detroit, vous trouverez le nom, il y a H-Y dedans, je ne sais plus bien, O-Hari, O-Rai, j'ai pas eu le temps de le rechercher, mais voilà. Alors là encore, et il y a un musée même dédié à toute son œuvre, et dans une serre pour effectivement faire aussi un dialogue entre, on va dire, les réseaux et les faisceaux des plantes et son œuvre à lui. Et là, tout d'un coup, on voit bien effectivement que dans la végétation, on est dans une problématique qui est assez proche. puisque la petite ligne, la petite tige va devenir arbre, feuille, etc. Avec toutes les variations possibles qui sont assez communes. Alors, un artiste français qui est aussi un artiste abstrait, alors je vous en montrerai plusieurs, pas tous français, qui vont être entre la frontière entre la peinture, la sculpture, le graphisme, l'art conceptuel, c'est François Morlet, qui a été exposé à Beaubourg l'année dernière, M-O-R-E-2-L-E-T, qui, ici, est dans une installation où il a conçu, y compris les sols qui sont tout en pixels, plus des tableaux qui sont aussi des travaux de géométrie, plus une sculpture faite de lignes, vont effectivement faire se dialoguer toutes les variantes possibles et les passages possibles du point à la ligne, de la ligne au volume, de la ligne à la surface et de la surface au volume. Alors, d'autres œuvres de Morlet sont toujours des sortes de variations sur cette question, avec une sorte de beauté de la géométrie et du dialogue entre le hasard, l'accident et tout d'un coup la géométrie. Par exemple, ça c'est quelque chose qui est assez poétique en fait. Même ça sent un peu, je l'ai tout. Il prend des branches, toutes bêtes, et il essaye, en fixant ces branches, de les géométriser, comme si c'était une sorte de dérivée mathématique ou une intégration. Vous avez une forme par hasard qui se rapproche d'une forme géométrique et il la complète en peignant tout simplement ici les lignes droites qui vont essayer de structurer quelque chose qui était fait par hasard dans un carré. Alors ce sont des recherches de Morlet. Alors là on la voit bien, ça c'est un peu plus complexe, parce que vous avez une branche, et dans la branche il va essayer de trouver toutes les logiques possibles, toutes les formes géométriques qu'on pourrait déduire de cette fourche. Vous avez la fourche ici en bois, là vous avez le début d'une autre fourche, et puis là vous avez une légère courbe donc qui va compléter par un cercle. Cette idée de la nature et de la géométrie, c'est un vieux thème, depuis Platon et Aristote, retrouver des structures dans une sorte de chaos apparent de la nature, ça c'est typique de son travail, et on voit bien aussi le dialogue entre un graphisme un peu qui semble hasardeux, la trace, la ligne qui va circuler un peu comme on veut, proliférante, et puis tout d'un coup, la ligne ordonnée, la géométrie pure, le graphisme rationnel, comme on le voit ici. Alors, il va, dans son travail autour des lignes, parce que la plupart du travail de François Morlet, c'est explorer les lignes, dans la nature, dans l'espace, en couleur, et quand une ligne devient volume, ou chemin par exemple, ou parcours, on va découper un volume complexe, c'est le grand cube, un grand parallélépipède blanc, qui va être traversé par des sortes de couloirs, et voilà, donc c'est des jeux graphiques qui vont faire générer l'ombre, de la lumière, etc., des parcours complexes. Là, on voit aussi comment est-ce que une même réalité peut être perçue différemment, puisque vous avez des lignes droites tout d'un coup qui vont être soit signifiées graphiquement par des traits, soit au contraire être simplement des zones frontières entre des surfaces, le jaune, le rouge et le blanc. Et selon que l'on la voit comme une frontière entre le rouge et du blanc ou comme une ligne noire sur fond blanc, eh bien on aura une perception totalement différente. Alors qu'en fait, c'est le même dessin, c'est un dessin qui est unique. Et l'air de rien, il fait le dialogue, il établit le dialogue d'origine entre la ligne et la couleur. Le dessin et la peinture, la ligne, la surface, ce qui montre et ce qui cache, etc. Donc, c'est tout bête, mais c'est assez subtil et élégant. Alors ensuite, il fait aussi des expériences sur la ligne dans l'espace. Alors la ligne lumineuse, le chaos, le hasard, les reflets, les ombres, même les fils électriques qui vont nourrir la lumière, que l'on va voir par terre, les ombres et les reflets, et les projections aussi, puisque chaque lumière va aussi projeter des ombres, comme par exemple on peut le voir plus ou moins sur les murs. Et puis vous avez aussi les lignes de suspension au plafond. Donc, ligne au plafond, ligne au sol, ligne ici, ligne plus ou moins perceptible sur les murs. Alors là, on ne les voit pas trop, mais ça faisait partie de son projet. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore ? François Morlet. Alors, François Morlet, bon, en fait, c'est un artiste, on va dire, minimaliste. Ça, on verra plusieurs artistes minimalistes, y compris américains, qui vont faire une œuvre simple, ils vont essayer de la confronter, de la déployer, et de lui faire rencontrer des espaces multiples. ils sont quelque part, si vous voulez, dans la tradition même du Bauhaus, hein, qu'on a vu avec Oskar Schlemmer, qui disait, mais si on met des bâtons sur un danseur, comment il va danser ? On va voir tout ce que ça donne. Oui. Ah voilà, c'est ce que vous m'avez dit, ouais. Et donc, vous avez, en fait, ils sont toujours dans la leçon inaugurale de Kandinsky, qui dit finalement, regardons d'abord ce qu'on fait, hein, regardons, au lieu de regarder la nature comme ça, regardons même les outils qu'on utilise, les points, les lignes, les traits, les surfaces, les couleurs, et puis on essaie de voir déjà toutes les variations qu'on peut faire. Et on se rend compte, avec ces artistes, c'est assez drôle, que les formes les plus simples peuvent être visitées et explorées avec une infinité d'imagination, d'imaginer. Alors bon, Gabriel Orozco, bon, je passe parce que c'est un peu compliqué, puis après on en verra d'autres. Je préfère vous montrer Anthony. Alors, je crois que c'est Gromley ou Gormley, souvent je me trompe, J-O-R-M-E-L-Y, qui fait des sculptures en fil de fer, là. Un peu à la manière, c'est pas comme Calder, mais on est toujours dans cette idée quand même de la ligne et du volume, hein, d'un corps qui n'a plus de contour, plus de surface, mais une sorte de résultante, c'est-à-dire qu'on peut tout d'un coup déduire un corps alors qu'il n'a pas de frontières, il n'a pas de contours, mais par une sorte de densité différente, on va identifier quelque chose, hein, par la sculpture debout, par le fait qu'au bout du compte, il y a une sorte de remplissage, même s'il n'a aucune frontière, aucun contour. Donc toutes ces lignes, en étant soudées, vont faire des silhouettes, qui, si on les regarde toutes ensemble, en plus avec un effet de miroir, de transparence, vont toutes fusionner les unes dans les autres. Alors, pour Gormley, ça devient un peu philosophique aussi, cette idée que finalement un corps humain n'est qu'un lieu de passage. Et si vous voulez, le fait de ne pas faire de silhouette, de le faire traverser, hein, de le faire sans véritable frontière, hein, sans véritable contour, et pourtant, ensuite, si on le confronte à d'autres espaces, eh bien, ça va fusionner. C'est qu'en fait, pour lui, on a presque cette idée philosophique qu'on est toujours en connexion avec les autres. Enfin, quelque part, on n'est jamais coupé du monde, la preuve. Et on est aussi traversé par des zones d'énergie, comme par exemple ici, avec ces fils de fer. Alors, comme j'ai agrandi le document, il est de mauvaise qualité, hein, c'est un artiste vivant, hein, donc voilà, je ne vais pas vous montrer plus en détail son travail ici. Alors, sur Gromley, hein, Gromley, là c'est marqué Gromley, mais... Et là encore, vous avez toujours cette idée. Alors, là, ça évoque le sarcophage, hein. Mais vous voyez, on est toujours pas loin de la cage, le corps, les fils, les lignes. Alors, vous avez aussi quelque chose qui est subtil et puis qui est assez évident, c'est que si vous regardez bien, une fois qu'on, bon, vous savez bien, hein, une fois qu'on enlève le corps, on n'est fait que de réseaux et de lignes. Les lignes, les veines, les neurones, le squelette, les vaisseaux, toutes les fibres. En fait, on n'est qu'un ensemble de fils et de neurones, un sac de nœuds, on pourrait dire, assez complexe. Et finalement, là encore, vous avez quelque chose qui n'est pas faux, même, on va dire, presque biologiquement. Alors voilà, toujours, hein, c'est formulé. Alors, ce sont des travaux de soudés, hein, soudés, assez intéressants. Alors, il appelle ça le nuage aussi, hein, souvent, c'est cette idée que si des formes sans contour, mouvantes, des échanges, ça aussi, c'est pas faux, hein, parce qu'un corps, c'est un lieu d'échange permanent. Un corps vivant, c'est un lieu d'échange permanent, et le titre même, nuage, n'est pas faux. Alors, toujours un peu dans le même registre, mais alors, ça nous rapproche à la fois de Gromley et de Louise Bourgeois, c'est Mona Atoum, qui est une artiste franco-libanaise, je crois, qui, elle... alors, je vais vous montrer plusieurs de ses œuvres, et vous allez comprendre assez... Enfin, travailler sur des... Souvent des objets... Alors, attendez. Ah, zut, c'est bête. J'en ai pas d'autres. J'en avais d'autres, mais je ne sais pas. Elle va faire des sortes de détournements de meubles ou d'objets du quotidien. Des garde-manger, lits, paravents, qu'est-ce qu'il y a ici encore, lits d'enfants, hein, lits cages, etc. Mais va les prolonger quelque part, pousser leur logique un peu loin, pour en faire des objets étranges, hein, puisque, par exemple, on va garder que la structure, ou alors, par exemple, comme un lit en verre. Hein. Ça, c'est le glass bed, ça s'appelle, une sorte de lit en verre, donc à la fois très fragile, hein, cage, structure, on est toujours dans cette idée aussi du corps, de la fragilité, de l'enfance, la cage aussi, le lit, cage qui protège et en même temps qui enferme, donc toutes des notions comme ça, hein, donc cette idée aussi de la transparence, on va le retrouver encore, le lit, cette fois-ci, lit médical à roulette avec des papillons, hein, qui sont, alors, the lover's bed, c'est le lit des amoureux, hein, les papillons comme une métaphore un petit peu de de l'amour, des sentiments, de la beauté, mais en même temps, le lit a quelque chose de métallique, un peu presque d'hôpital. Donc voilà encore une structure. Et puis, elle va faire aussi des installations qui sont très séduisantes, à partir du même principe toujours de lignes, de structures géométriques parties du quotidien, comme ces espèces d'armoires, ou d'étagères, ou de garde-manger, qu'elle va déployer, répéter, et cette fois-ci comme des casiers un petit peu, et avec simplement une lumière à l'intérieur, entre les deux rangées, vous voyez les deux rangées de casiers, ici, une lumière intérieure fait tout d'un coup une sorte de démultiplication complète sur les murs des grilles et des cages et des réseaux. Et tout d'un coup, vous avez quelque chose d'assez fantastique, parce que ce qui était une petite cage, etc., devient une cage qui vous enferme vous-même aussi. Le côté linéaire de la structure est transformé en dessin pur, comme on le voit ici. On perd ses repères au sens strict. On ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est ombre, ce qui est lumière, ce qui est projection, et reflet aussi. Donc, un côté un peu fantastique, oppressant, mais on se rapproche un petit peu de la thématique de Louise Bourgeois. Là, vous avez justement des photos, si ça permet, des jeux de photographie très intéressants d'un point de vue structure, géométrie, perspective, etc. Hein, puisque vous avez une perspective lisible, d'un coup on revient à plat, donc du volume ici et une mise à plat. Ici, des éléments de profondeur, des réseaux, des rythmes, des accidents avec le côté fil de fer barbelé, tout d'un coup qui peut donner une interprétation aussi. Donc vous voyez une gamme de référents chez Mona Hatoum. Ce ne sont pas les seuls, mais alors, très souvent elle travaille sur le métal. Elle va faire par exemple aussi des... Ce n'est pas tout à fait dans le même registre, mais par exemple un énorme hachoir à main, la moulinette de Moulinex en métal, elle va en faire une gigantesque. D'un coup, ça devient, ce qui est un objet banal peut devenir menaçant. Elle fait aussi un paravent en faisant un énorme, vous savez, des espèces de petites râpes à légumes, là, planche. On peut râper, puis on peut aussi couper les concombres, les carottes, les plaques, et il y a une poignée. Mais en fait, elle en met trois comme un paravent. D'un coup, le paravent évoque le fait de se déshabiller, donc de s'éplucher, puis en même temps, les espèces de lames coupantes peuvent imaginer que le corps projeté contre ces lames devient menaçant, donc un jeu subtil, par petites touches, elle rend un élément de malaise avec des objets du quotidien. Ça, c'est une des caractéristiques de Mona Hatoum, entre autres. Mais il y a toujours quelque chose qui est très précis sur elle, justement, c'est la rigidité, la dureté, le métallique, la ligne droite, etc. Vous voyez, un registre qui est assez clair chez elle. Alors, quelqu'un qui est plus sensible, sensuel et un peu drôle, c'est Augustino Neto, Ernesto Neto, qui est un artiste brésilien. Je crois que je vous l'avais déjà montré, lui. Est-ce que vous voyez avec quoi c'est fait, ça? C'est même pas de la laine, c'est des collants. Des collants, ou alors après la technique, je ne sais pas jusqu'à quel point on peut remplir un collant comme ça. Mais effectivement, le collant, c'est vraiment des fils extensibles. Et il fait des environnements, alors en les, par exemple comme ça, en les remplissant de masses plus ou moins pesantes, qui vont donc, alors tout à coup, alors il fait la couture, il va en coudre les uns les autres, etc. Il va les étendre, faire des sortes. Alors là, on retrouve quelque chose d'organique, on trouve le cocon, à la fois l'oreiller, le nid, mais il fait des installations praticables dans lesquelles on peut rentrer, pousser, etc. Et avec tous les registres possibles, depuis le fil, d'abord qui va être une enveloppe, si on l'étire, de surface, il va redevenir fil, puisque plus on le tire, plus il s'affine, et il va redevenir volume en le remplissant. Donc, vous voyez, toutes les explorations possibles, y compris sur la résistance, transparence, translucidité, et toujours un côté aussi organique, cette fois-ci, clairement montré, avec y compris là, les petites tentes sur lesquelles on peut rouler, etc. Alors, je ne vous le montre pas tous, mais Ernesto Neto, c'est drôle. Et puis là, c'est très grand, parce que justement, bah, il va jouer aussi sur la logique. Oui, les gens sont... Voilà.
C'est tout petit.
Donc, il peut rentrer dans... Donc alors...
Ils peuvent se faire digérer.
Digérer. Alors, il y a le côté organique, évidemment, intestin, boyau, araignée, tout ce qu'on veut. Et on est encore... On est encore dans l'organique. Alors voilà, Jean-Pierre Reynaud, parce qu'en fait, oui, alors je pense qu'il a utilisé, au début, à ses débuts, je pense qu'il a utilisé des vrais collants qui sont tout bêtes, parce que Voilà. Et puis ensuite, je crois qu'il a dû faire des collants gigantesques, parce que là, utiliser le matériau de base, peut-être aller à une usine, faire, coudre. Mais comme quoi, à partir des choses très très simples, l'exploration d'un matériau ou d'une forme, poussée très loin, aboutit très souvent à des logiques. Mais certains d'entre vous, donc vous êtes scientifiques, vous savez très bien qu'un programme très simple, s'il se démultiplie, tout finit par faire des corps complexes. Et en fait, c'est un petit peu ça. Alors Jean-Pierre Reynaud, c'est aussi un peu ça. Hein. Jean-Pierre Reynaud, dans sa vie, n'oubliez pas, alors là, c'est pour ça qu'il y a une sorte de thématique, on est quand même dans le vivant à chaque fois. Très souvent, là, dans ce que je vous montre, on est dans l'habitat, la plante et le corps. Jean-Pierre Reynaud avait commencé en étant horticulteur. Il travaillait dans les serres. Et là encore, on va retrouver un peu c'est pas la cage, mais la serre qu'on a vu aussi dans d'autres, ou la cage, ou le lit, ou le cocon. C'est que dans les serres, effectivement, on va mettre en pot et mettre en serre des plantes fragiles pour les protéger, pour qu'elles puissent grandir et ensuite les faire sortir. Et lui, ensuite, je ne sais plus exactement comment il a rencontré des artistes, et il a transposé l'univers, soit des serres, soit des paillasses de carrelage, etc., sur lesquelles il travaillait, qui était aussi cette idée à la fois biologique et organique. La paillasse, c'est à la fois celle du scientifique, mais de la cuisine et de la salle de bain. C'est-à-dire le réseau des carrelages, c'est quelque chose qui est connoté. Et cet outil est devenu son outil à lui, sa signature. Jusqu'à effectivement, je vais vous montrer, tu as tout de suite vu Jean-Pierre Reynaud, et rappelez-vous, jusqu'à vivre dans une maison qu'il a entièrement carrelée, alors c'est pas celle-ci, mais notamment la voilà ici. Il a vécu pendant 20 ans à la Celle Saint-Cloud dans une maison qu'il a entièrement carrelée, progressivement, alors dépouillée. Mais quand vous le voyez, je vous conseille d'aller voir des vidéos, des interviews de Jean-Pierre Reynaud, parce qu'on voit bien qu'il rigole pas. C'est un personnage qui est tout sec, tout fragile, très timide. Et qui s'est fait une sorte de serre, comme s'il voulait se protéger. Et d'ailleurs, personne n'est venu dans cette maison tant qu'elle était carrelée. Pour lui, c'était à la suite d'un divorce, il s'est séparé de sa femme, il avait voulu protéger. Alors lui, il sortait, il faisait des expositions ailleurs, etc. Mais c'était son espace, sa structure sensible, dans laquelle lui pouvait se permettre de se laisser aller légèrement. Et ce qui est assez intéressant, là. Ah, c'est bête, j'aurais dû vous trouver d'autres photos, mais je pensais que je vous ai montré.
En faisant le ménage.
Alors, tout était... C'était un maniaque de propreté, de poussière. Et ça, c'est son bureau. Son lit, c'est pareil. Soit vous avez un coussin, etc. Mais... Et en vivant plus ou moins longtemps, il a fini quand même par intégrer des choses de temps en temps. Il a mis, par exemple, du pigment bleu de Yves Klein. C'est une petite pyramide de bleu, une rose, une fleur, donc qui était dans un monde comme ça, entièrement.
À Beaubourg, il y a un cube.
À Beaubourg, il y a un cube.
Je suis allée récemment, au milieu, il y avait une souris, un cadavre de souris. Parce qu'il paraît qu'il change de truc.
Oui, et donc, tout à fait.
C'était une souris crevée.
Alors, c'est peut-être en référence aux recherches biologiques, parce qu'en fait, il se tient...
C'est pas une blanche, hein, c'est
non.
Une souris grise.
Il est dans l'actualité, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a maintenant un conteneur à Beaubourg, qui est entièrement carrelé, et qui est son espace à lui, mais dans le musée, et dans lequel il a le droit d'aller mettre ce qu'il veut à l'intérieur. Quand il y a eu des essais nucléaires, il est allé mettre un bidon avec du nucléaire. Quand il y a eu... Donc, selon l'actualité, il va mettre une chose, et c'est un peu comme si c'était un écrin ou un cadre. Donc, si vous voulez, ce carrelage qui était tout bête est devenu, là encore, une sorte de serre à idées, d'écrin à idées, de cocon à idées, sa vie, ses pensées. Alors, voilà une vingtaine d'années quand il s'est senti mieux. Et il a fait détruire entièrement bulldozer sa maison. Et il y a la vidéo, d'ailleurs, si vous la regardez, elle est extraordinaire. Il est au milieu des gravats de sa maison, avec le bulldozer qui arrive, qui écrase tout. Et il essaye de sauver un maximum de choses. Donc c'était prévu, il l'a fait. Et il récupère tous les carreaux qu'il peut. Et il va en garder à peu près un millier, qu'il va mettre dans des grands seaux en chrome. Et qui va ensuite exposer, ranger, etc. Donc c'est quelqu'un qui va aller très très loin sur construction, destruction de sa maison. Mais il me semble vous avoir déjà montré certaines de ses œuvres. Mais vous voyez cette idée de la structure aussi, de cette espèce de ligne qui va conquérir l'espace jusqu'à devenir...
Mais est-ce qu'il est étudié par les scientifiques?
Oui, bah, c'est quelqu'un qui est très très connu. Hein. Et maintenant, juste sa maison, il a changé. Ah, c'est bête, parce que attendez, si vous avez deux secondes, je crois que je l'ai. Belle. Mais alors, vous allez voir, sa nouvelle maison, elle est différente. Oui, il a une nouvelle maison qui est assez intéressante aussi. Je crois que je l'ai ici. Alors, attendez. Ici. Puisque sa maison actuelle... Alors, il a vécu 20 ans hein, là-dedans. Il a vécu 20 ans là-dedans. Je crois que c'était conjoint. Ah ben voilà, regardez, j'ai plusieurs éléments sur lui. Le voilà en train de travailler. Ah oui, parce que là, actuellement, il a à peu près 72 ans. Voilà, voilà. Il a dû faire ça de 30 à 50 ans, à peu près. Ça, vous voyez son lit. Mais c'est le pire, justement. C'est qu'en fait, il est dans une sorte de dépouillement absolu, mais tout d'un coup, ce minimalisme pur absolu révèle aussi. C'est-à-dire que la moindre chose qui apparaît là est comme révélée dans toute sa beauté. C'est-à-dire que la moindre lumière, la moindre plante, la moindre couleur devient effectivement quelque chose de très beau. Et les formes, les lignes, on perçoit très très bien les espaces, les volumes et les profondeurs. Et là encore... Alors ça, les vitres, il explique dans la vidéo. Et ça, c'est lui. Hein. Non. Et voilà les seaux avec toute sa maison détruite. Et les mains. Entièrement. C'est que la ligne est devenue physique. C'est que c'est devenu d'abord ce réseau linéaire géométrique. A pris une vie d'abord de plat, il est devenu volume. De volume, il est devenu maison.
Il a un agent ou c'est lui qui commence?
Il est très connu, c'est un des artistes, il est mondialement connu. C'est-à-dire qu'une fois qu'il vivait ça, et après, il a eu des commandes publiques, hein, des installations publiques. On lui avait même demandé, par exemple, quand il y a eu la destruction de la cité des Minguettes à Lyon, on lui avait demandé de faire un projet de carreler entièrement une tour. Sauf que ça n'a pas été fait, mais c'était assez intéressant. Hein. Je crois que je l'ai d'ailleurs en projet. Alors le voilà en train de récupérer ses carreaux. Et voilà ici, la maison, là encore. Et ça, c'est le cube qui est à Beaubourg.
C'est un coffre fermé.
Un coffre, et là, par exemple, tu vois, c'est des couleurs. Et ça, c'était la tour des Minguettes. Alors c'est quelqu'un aussi qui va se référer à tout ce qui est art cistercien, c'est-à-dire art géométrique, minimaliste, etc. À l'épure, il a fait des vitraux à l'abbaye de Noirlac, qui est une abbaye cistercienne, hein, et dans laquelle il a retrouvé finalement toute une esthétique géométrique, hein, les variations sur géométrique que les moines cisterciens avaient développées. Vous savez qu'ils étaient iconoclastes. Donc Reynaud, bon, ça je passe, ça c'est la mastaba, mais voilà sa maison actuelle. Et voilà.
Ça change.
Ben c'est qu'il a complètement changé. C'est qu'il a inversé. Sa maison qui était bunker.
Oui.
Alors, je ne sais pas. Et il est inversé parce que je crois qu'elle est près de chez moi, mais il faut que j'aille. Je crois qu'elle est à Barbizon. Et elle est dans la forêt. Et alors là, il a inversé tout. C'est qu'au lieu d'être quelque chose qui l'enfermait, il a fait une maison totalement ouverte sur l'extérieur. Hein, avec que des vitres. Et alors, il vit à l'intérieur, mais... Et il soigne le jardin. Voilà, il y a des restes de son activité précédente, mais là, on n'est plus dans l'enfermement, on est dans une sorte de passage et d'échange. Et alors, lui, il a retrouvé son travail dans le temps qui était horticulteur. Ça, c'est, oui, au Journée du patrimoine. Donc, c'est... Là où c'est intéressant, c'est quelqu'un qui va vivre à fond toutes ses postures et ses attitudes. C'est-à-dire que quand il s'enferme vraiment, personne ne rentre. C'est un cocon, et quand il sort, ça ouvre. C'est-à-dire qu'il a... Alors, je m'écarte un peu du principe d'un graphique, mais vous voyez que... Alors, quelque part, on est quand même dans l'idée de la maison, à chaque fois, de la ligne, la structure, etc. Donc, avec lui, on est aussi toujours dans cette idée de l'habitat. Hein. Mais Jean-Pierre Reynaud, c'est pas n'importe quoi non plus. C'est-à-dire que quand on voit de près, quand on regarde, et je vous assure, les vidéos, les interviews sont assez saisissantes parce qu'il est totalement sincère. Et on voit que c'est pas du tout une posture facile, d'abord parce qu'il la vit vraiment, et puis parce que c'est intelligent et poussé jusqu'au bout. Alors attendez, sinon je vais rajouter le... C'est quoi? C'est pas ici. Voilà. Alors je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, sinon je finirai jamais. Reynaud. Alors. Oui. Alors, attendez. plusieurs artistes ont fait des évolutions un peu dures. Par exemple, Sol Lewitt, qui est un artiste conceptuel américain, a commencé simplement sous le principe du cube. Et de toutes les variations possibles, les combinaisons possibles d'un cube fait en arête blanche. Au début en bois, puis ça peut être en plastique, etc. Le simple cube, toutes les variations possibles du cube. Et les dispersions, variations, empilements, etc. Alors, ce sont des structures extrêmement fines, avec des décalages. Alors là, on est le 1, 4, 9, 1, 16. 9, donc carré de 1, carré de 2, carré de 9, etc. Donc cette idée de visualiser de manière quantitative et physique des principes mathématiques, des raisons mathématiques, la ligne, le carré, la surface, puis la mise au carré, etc. Donc c'est des choses toutes simples, mais avec y compris des visions, des sensations, voilà. On est dans une sculpture purement, on va dire, presque mathématique et physique, à partir d'un objet simple, là encore, lancé dans l'espace, on va dire proliféré avec des aménagements possibles. Alors, là, il y a plusieurs techniques possibles, selon ses moyens. Au début, je crois qu'il a fait avec des petites baguettes de bois peintes, etc. Puis ensuite, je crois que c'est les cornières qu'il a dû faire en, je pense, c'est en plastique ou en acier, selon ses moyens. Et je pense que vers la fin, c'est de l'acier. Hein, de l'acier peint ou teint. Et alors là, vous avez justement comment une structure au sol, un carrelage au sol peut gonfler, devenir d'abord une ligne plane va devenir un volume. Ce volume, avec une cornière et une arête, va devenir un volume plus complet, ici un cube, il va grandir, etc. Donc, tout un jeu d'occupation de l'espace avec des variations. Et puis, ce Lewitt, donc, alors il en a fait des tonnes, mais ensuite il est passé, alors là il a eu une sorte de révolution aussi presque conceptuelle, dans les années, ces artistes, on va dire, minimalistes dans les années 60-70 étaient extrêmement rigoureux, allaient jusqu'au bout de leur point de départ, mais ils ont eu aussi l'intelligence, une fois qu'ils avaient exploré tout ce qu'on pouvait faire avec un cube, avec une ligne blanche droite, ils ont été explorer tout ce qui était justement réseau géométrique, minimalisme, et y compris occupation de l'espace. Et Sol Lewitt, c'est le même, qui a commencé par faire des occupations graphiques de l'espace. Alors d'abord en noir et blanc, puis certaines effectivement avec justement des modifications de la sensation de l'espace. Alors ça, ce sont des travaux temporaires, parce qu'en fait c'est fait dans des galeries, puis ensuite c'est repeint, donc c'est des sortes de propositions.
Est-ce que Ben ne peut pas...
Buren.
Celui qui a fait ce dont on a parlé tout à l'heure,
oui.
Pour les bandes là.
Oui, Buren, oui.
Il ne va pas dire qu'est-ce que c'est que ça.
Ils sont contemporains, hein, je pense qu'ils se connaissaient aussi, sauf que Sol Lewitt a fait plus de variations. Et ensuite, Sol Lewitt est allé aussi vers des jeux de couleurs. Hein. Comment est-ce que les couleurs peuvent modifier les sensations d'abord graphiques de l'espace? Et il assume totalement un art décoratif. Décoratif intelligent, mais en même temps, parce qu'il n'y a pas de répétition. Donc, avec quelque chose de... Comme si tout d'un coup, la pièce elle-même devenait une sculpture peinte. Et on voit toutes les explorations possibles, hein, des propositions minimales. Toujours autour du carré, comme on voit ici, là encore, ou là encore. Donc ça, c'est toujours du Sol Lewitt. Alors, l'intérêt, quand même, c'est à l'échelle justement du mur. Et rappelez-vous qu'une des polarités de la peinture, c'est la fenêtre ou le mur, hein, la ligne ou la surface, le dessin ou la couleur. Et là, quelque part, il est toujours dans les deux. Hein, fenêtre-mur, couleur noir et blanc, ligne et surface, etc. Alors, d'autres artistes qui explorent justement la puissance de la ligne, c'est par exemple le sculpteur chilien Soto, Jesús Rafael Soto, je ne sais pas si je prononce bien, qui fait des sculptures en fil de nylon, ou en fil, plus ou moins colorées. Et par exemple, là, vous avez qui sont suspendus à des grilles, et ce sont que des fils, hein, colorés, mais selon comment ils ont assemblés, vous voyez une sorte de sphère. Donc, c'est une sphère qui n'existe pas, et en plus dans laquelle on peut rentrer. Ou si vous passez derrière, on voit quelqu'un qui est derrière, tout d'un coup, comme la personne était absorbée dans la peinture. C'est à la fois une peinture, une sculpture, à la fois des lignes, des couleurs, des surfaces, des volumes. Donc, Soto fait ce qu'il appelle des praticables, hein, comme on voit ici. Des sortes de volumes, mais qui n'ont pas de matière, qui n'ont pas de véritable contour, dont on ne sait pas très bien quelle est la structure, qui à la fois s'imposent, sont en volume, sont transparents, sont à la fois tout et rien, sont à la fois légères, elles sont en suspension, parce qu'elles semblent ne pas peser, puisqu'à chaque fois ce sont des micro-points d'attache, Et les sculptures de Soto sont intéressantes. Et alors, ce qui est assez drôle aussi, certaines, on peut passer dedans. Il y avait une exposition au musée Soulages, là, l'année dernière, de Soto, et on pouvait rentrer dans certaines de ces sculptures. Certaines sont gigantesques, et vous, tout d'un coup, vous faites partie de l'œuvre, hein, y compris vous disparaissez, puisque tout d'un coup, vous êtes atténué, comme flouté, dans une sorte de nuage. Donc là aussi, on voit une exploration subtile de la ligne. Hein, alors, parfois, Soto ensuite a eu des commandes plus monumentales, hein, comme celle-ci et d'autres. Ça, c'est à Séoul, pour coréen, etc. Alors, Résus Raphaël Soto, comme ça, hein, qui est plus, peut-être plus, comme une sorte d'apparition, hein, qui est très belle, hein, avec la brillance du nylon ou du fil métallique. Et puis, alors en plus, là, évidemment, les photos ne sont pas bonnes, parce que quand on se déplace, on a des sensations différentes. Puisque selon l'angle que vous avez, c'est plus ou moins opaque, il y a des brillances, il y a des effets d'alignement, ou au contraire de quinconce, qui font que vous allez avoir soit un ordre, soit un désordre. Avec comme dans les forêts, vous voyez des arbres rangés, puis vous vous déplacez. Oui, tout, des moirages. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est aussi très, très intéressant du point de vue de la perception et des jeux optiques. Et par exemple aussi, hein, il va faire des travaux, alors on n'est pas loin de l'op art, hein, l'art optique, où vous avez aussi une interaction entre des formes peintes et puis des volumes. Hein, selon comment vous voyez être les ombres, les couleurs, les déplacements, parce qu'ils sont mobiles, et les formes qui sont derrière, vous allez tout percevoir différemment. Parce que tout d'un coup, vous ne savez plus très bien ce que vous voyez. Donc vous avez des sortes d'expériences, de perception, toujours autour de la ligne et du graphisme, du volume et de l'espace. Donc, et alors là, on voit un petit peu mieux. Hein, vous voyez, selon l'épaisseur des lignes, selon leur déplacement, selon leur couleur, tout peut changer. Là, un autre artiste minimaliste, mais qui lui aussi va aller vers quelque chose de généreux, on va dire, c'est l'artiste américain, alors il vit toujours, hein, Stella, Frank Stella. Sol Lewitt aussi, hein, il vit toujours, je crois. Hein, donc Soto, il vit toujours, Stella vit toujours, c'est des artistes contemporains. Hein. Ils doivent approcher entre 70-80 ans à peu près, qui sont encore actifs. Hein, et encore que Soto est peut-être mort, mais enfin, si vous voulez, on est dans une génération d'artistes qui ont émergé sous les dents des années 60-70, jeunes, hein, puis ensuite toute leur vie, ils ont exploré ça. Alors Stella. Là, on le voit peindre. J'ai pris cette photo en train de le voir peindre. C'est une sorte de Buren aussi, hein, mais il va peindre à la main. En essayant, alors c'est un travail, c'est tout bête, hein, de maîtrise, parce qu'il ne va pas apprendre de règles, hein, de tracer tout droit, de façon très régulière. D'abord des bandes comme ça sur des carrés. Et puis ensuite, il va faire la même chose, mais sur des toiles qui vont être découpées. C'est-à-dire que les toiles ne sont plus des fenêtres, deviennent des sortes de sculptures plates, qui ont des formes géométriques, en V. Et selon la forme géométrique, il va peindre les formes qui correspondent au cadre. Il appelle ça les shaped canvas. Shaped, c'est la frontière, la bordure. Un shaped canvas, c'est donc des peintures sur des toiles préparées, si vous voulez. C'est un peu comme s'il se donnait une contrainte. Et puis, il explore un petit peu les variations possibles. Et là, on le voit en train de peindre très, 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 très méticuleusement, hein, avec des légères variations. On voit qu'il a un peu bavé, il a dû avoir un petit coup de nerf, je ne sais pas quoi. Mais c'est quelque chose une sorte d'ascèse. Vous avez vu, beaucoup de ces artistes-là travaillent un peu sur, je dis, l'espèce de homard, une structure extérieure, là, une carapace extérieure qui va vous donner une structure, une ascèse, hein, une contrainte. Hein, et en même temps quelque chose d'assez généreux, et avec là aussi où c'est intéressant, c'est que la partie graphique, c'est ce qui n'est pas peint. Il fait une surface, et en fait le vrai graphisme, c'est ce qu'on appelle la réserve, c'est ce qui n'est pas peint. Là on le voit encore en train de peindre ces grands shaped canvas, ces toiles découpées, et voilà ce que ça peut donner ensuite, hein, ce sont des grands jeux optiques, mais et voilà encore avec des variations cette fois-ci de couleurs, etc. Donc on est dans un travail minimaliste. Et puis, au bout de plusieurs expériences comme ça, il est passé à des variations colorées, avec cette fois-ci des motifs qui se rapprochent plutôt de l'entrelac, hein, de l'entrelac presque celtique et des enluminures, où on essaie de suivre des lignes, hein, qui passent dessus, dessous ou pas, avec un vocabulaire de base, c'est carré, cercle, donc on va retrouver des formes géométriques de base, triangle, carré et cercle. On est vraiment là aussi. Et puis, par contre, les variations dans la couleur. Variations colorées, hein, des combinaisons, des effets de dessus-dessous, de nœuds, d'éloignement, donc quelque chose d'assez décoratif. Vous voyez, finalement, ces artistes qui étaient austères, deviennent aussi des artistes finalement assez décoratifs, il y a quelque chose d'assez plaisant. On est dans un dépouillement. Alors, historiquement, juste pour vous donner des repères, ces artistes arrivent quand, aux États-Unis, soit il y avait un peu trop de pathos ou de drame dans, par exemple, les Pollock, ces gens qui étaient dans le gestualisme, une sorte de tragédie très intime, personnelle, etc. Vous aviez aussi les artistes du pop art qui faisaient des sortes d'images un petit peu critiques, sociales. Et eux ont voulu essayer de trouver une sorte de créneau qui était beau, avec moins de pathos et pas d'espèce de discours aussi politique et social, quelque chose de très très dépouillé, formel, et dans toute l'acceptation du terme, en acceptant y compris le côté décoratif. C'est vraiment la peinture pure pour elle-même. C'est un langage pur, comme on va voir la recherche en musique ou en littérature, une sorte de formalisme totalement assumé, mais qui va jusqu'à ce côté généreux, avec des variations. Et puis, il va, c'est toujours Stella, va aller vers quelque chose, il va se déployer au sens strict. C'est-à-dire que sa ligne de noir et blanc est devenue en couleur. De couleur, elle a eu ses espèces de variations. Et sa ligne, elle va commencer à prendre aussi du volume et une sorte de déploiement aussi dans l'espace, presque de sculpture. Alors, ça c'est toujours Stella. À partir du moment où il travaillait sur la ligne, quand il y a eu les ordinateurs dans les années 80-90, les ordinateurs et graphiques, il a commencé à faire des recherches sur les logiciels graphiques. On lance des programmes, et d'un coup, vous avez des sortes de projections ou de prolifération de programmes qui vont faire des jeux mouvants comme ça de ligne. Et il va en lancer plusieurs, en arrêter certaines figures qui l'intéressent, les imprimer, les découper, les assembler. Puis ensuite, agrandir, soit par des principes de projection, etc. Et donc, c'est quelqu'un qui, de la ligne, est passé de la ligne maîtrisée, etc., par l'homme, hein, toute droite. Ensuite, il va trouver les courbes et la couleur. Et puis, courbe, couleur, cette fois-ci, ordinateur, toujours une sorte de raison, mais qu'il dépasse, hein, la logique de l'ordinateur, et faire des choses de très, très, très grandes peintures, comme celle-ci, ou y compris espèce de folie de l'ordinateur, d'un coup vont se déployer aussi dans l'espace. Au lieu d'être uniquement planes, elles vont finir par se détacher du support et conquérir l'espace avec découpage, collage, etc. Alors voilà, c'est des... Alors ça, c'est souvent découpé dans de l'acier. Hein, c'est dans de l'acier. Avec des lignes qui sont interrompues par des découpes, qui vont se connecter, s'interconnecter, donc quelque chose... Et c'est assez drôle de voir un artiste qui était très minimaliste arriver vers quelque chose de totalement fantaisiste et totalement déployé comme ceci. Ici, là, attendez, là on ne se rend pas bien compte, mais c'est quasiment en volume. Parce que là, le document n'est pas de bonne qualité, c'est dur de le voir avec des collages. Alors, évidemment, on retrouve avec lui tout ce qui est aussi organique, hein, les flux, les veines, les trucs, on pourrait très bien voir ça comme des réseaux aussi, soit hasardeux, soit organisés. Alors, avec quelque chose aussi, c'est tout bête, hein, mais que ce soit chez Dubuffet, chez Pollock ou chez Stella, si on regarde le monde actuel, on n'est que ligne réseau, connexion. Réseau ferré, réseau électrique, réseau énergie, réseau tuyaux, regardez une ville, regardez les routes, regardez les métros, enfin bref, tout n'est que réseau. Tout n'est que connexion, ligne, nœud, etc. On ne parle que de ça, avion, bateau, etc. Et donc vous avez cette idée en fait aussi que finalement la réalité c'est que des connexions, des nœuds, des réseaux qui s'échangent, qui se rencontrent, qui s'échappent, qui s'isolent, etc. Donc on se rend compte qu'on peut... c'est une question de modélisation et de représentation du monde. On peut voir le monde comme des surfaces des lumières, hein, au 19e, 20e siècle. On peut le voir le monde comme des machines, mais actuellement, depuis les années 90, etc., beaucoup d'artistes voient le monde comme des réseaux, plus ou moins connectés, plus ou moins ordonnés, y compris on peut voir le corps, on peut voir l'habitat, on peut voir la maison comme ça. Donc en fait, ce qui est assez drôle, ce qui est assez significatif, c'est de voir comment... voilà, c'était là au milieu, là, cette fois-ci, de choses totalement généreuses, hein, et séduisantes. Hein, et c'est franchement un artiste américain très intéressant, pas très connu, enfin, pas suffisamment connu en France. Voilà. Et, chose marrante, il en est arrivé aussi à faire des sculptures. C'est que de façon logique, si vous voulez, ça se déploie dans l'espace, ça se déploie dans la couleur, ça se décroche du mur, et tant qu'à se décrocher du mur, bim, ça devient structure et sculpture. Et on le voit très clairement ici, comme là. Là encore, hein, des lignes qui deviennent folles, qui deviennent surface, quelque chose de drôle, de généreux, de dynamique, en même temps très épuré, parce qu'à chaque fois, vous avez ces lignes. Hein, et là encore. Alors donc, vous voyez, des choses. C'était là, quelqu'un à suivre. Enfin, bon, à suivre. Chibet, il est connu dans le monde entier, dans les milieux artistiques. Mais voilà. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on en voit très peu en France.
Les voisins ne sont pas...
Alors, les voisins, c'est à Versailles. C'est une installation provisoire. Ouais. C'est Tadashi Kawata, qui est un artiste japonais, qui fait des installations avec des objets très simples, et souvent du bois. Sur le principe aussi, d'abord le bois, c'est même Léonard de Vinci, en italien ça se dit legno, c'est pas loin de ligneux. Léonard de Vinci dit que le bois c'est ligneux, ce sont des lignes, du bois, c'est des lignes qui vont grossir, c'est des lignes. Et puis beaucoup de structures faites en bois sont faites par des lignes, les cageots, les maisons, les cabanes, les poutres, etc., comment on appelle ça, les colombages. Les charpentes, presque tout n'est qu'un réseau de lignes, c'est dont le bois se développe, devient, mais reste quand même. Et Kawamata va faire des sortes d'installations provisoires, faites la plupart du temps avec des matériaux de récupération, mais qui sont effectivement comme une sorte de, là encore, un principe de prolifération. Donc, à Versailles, il avait fait cette occupation par des cageots. Alors, j'ai d'autres photos, mais c'était devenu très très grand, on pouvait presque rentrer. Il faisait ça aussi avec des étudiants des Beaux-Arts, c'était accroché avec des petits filaments, on pouvait rentrer là-dedans, puis c'était aussi informel, c'est-à-dire que ça proliférait comme un organisme vivant qui allait se déployer, se développer, il n'y avait pas de fin, parce que tout le monde pouvait presque amener son cageot, le fixer, etc. Donc vous aviez un principe, là encore, mais qui se déployait dans l'espace et dans le temps. Donc finalement, toujours des principes vivants, hein, comme des principes cellulaires, ou végétaux, ou animaux, où une cellule se démultiplie. Alors, il fait ça très souvent, il prend un principe, il demande aux gens de participer, hein, il donne une sorte de règle du jeu. Là, c'est une tour, alors le document est de mauvaise qualité, et encore, il est tout petit. C'est, alors tout coup, In Progress, hein, Suida River, donc c'est récent, 2012, au Japon. C'est une tour, théoriquement, qui pourrait être sans fin, et c'est des choses presque inachevées, alors qu'il s'arrête comme la tour de Babel, parce que soit il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'argent, ou il n'y a plus d'énergie, etc. Mais c'est des choses qui ont un début, pas forcément de fin. Et à chaque fois, on est aussi dans un graphique. Ah, voilà l'intervention à Versailles. Hein, sur une grande maison, les cageots, au début en tas, puis qui ensuite structurés, etc., vont faire un véritable corps, et vont dialoguer avec l'architecture. Par exemple, un empilement de chaises. Il va faire ça plusieurs fois, des empilements de chaises à la Salpêtrière ou ailleurs, des chaises récupérées ou des chaises un peu oubliées, et en refaire une sorte de voûte dans la voûte, hein, là où on devait s'asseoir, la chaise qui était juste un outil, ça devient la structure. C'est tout bête, hein, mais il faut savoir que déjà Le Corbusier disait que l'architecture, ça commence au meuble, hein, au placard, à la chaise, jusqu'à la maison, puis de la maison à la ville. En fait, c'est une solution de continuité, depuis le microcosme jusqu'au macrocosme. Le petit, finalement, l'architecture, elle est partout. Et finalement, c'est souvent les mêmes structures. Un immeuble, une chaise, un placard, finalement, c'est la même chose. Et puis, la ville, les réseaux. Donc, vous avez une sorte de... Les chaises aussi, alors c'est marrant parce qu'il a mis ça dans un passage. Et on peut rentrer à l'intérieur, hein, y compris on pouvait s'asseoir. Alors, il a fait des installations, on pouvait s'asseoir au milieu des chaises, etc. Donc, je simplifie un peu, mais ça, c'est Kawamata. Bon, ça, je passe. Je vous ai peut-être déjà montré ça fait très longtemps au niveau de la ligne et du graphisme qui devient vivant. C'est Theo Jansen, c'est un ingénieur artiste hollandais. Et ça, c'est une machine qui marche grâce au vent. Hein, ici, ouais, vous avez des sortes de voiles transparentes qui, animées par le vent, vont onduler. Quand elles ondulent, elles vont faire des sortes de bielles ou d'abracam, etc., elles vont faire mouvoir des sortes de pieds et de jambes, tic, 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 tic. Et il fait ça sur des gigantesques plages du nord, et donc avec le vent et l'espace, ces machines vont se mettre à marcher. Alors c'est tout bête, ils pourraient mettre un char à voile, mais le fait que justement ça soit uniquement des bâtons et des chaises, et qu'on imite la marche, hein, uniquement par des lignes, parce que tout n'est que bâton, en fait, bâton articulé, hein, transformation aussi, passage, uniquement une structure, mais qui devient vivante aussi, traversée par le vent, et qui ensuite va aussi révéler l'espace, ce qui n'est possible que dans l'espace plan et linéaire de l'horizon des grandes plages du Nord. Alors, rapidement, puisque je suis toujours devant la ligne en mouvement, les grandes sculptures de Jean Tinguely, évidemment, qui sont aussi des machines et des mécaniques en mouvement, les roues, les engrenages, vous connaissez toutes. Alors voilà, par exemple, une qui était à Beaubourg pendant longtemps, qu'on voit presque en ombre chinoise. Hein, tout à coup, une sorte de vision dématérialisée et détournée de la mécanique et des machines. Là, on le voit ici encore. Hein, toujours les œuvres de Jean Tinguely, le grand artiste suisse. Je vous saurais trop vous inviter à aller voir la Fondation Tinguely à Bâle, qui est absolument extraordinaire. Déjà l'architecture est belle. Et Tinguely, c'est effectivement un de ceux aussi qui a su travailler totalement sur ligne, structure, volume, espace, etc. et déplacement. Puis je termine, attendez, parce qu'il faut que je termine quand même, avec ce fou furieux de Wim Delvoye que je vous ai déjà montré, hein, qui va faire sculpter des pneus. Non, j'ai pas le temps de trop. Hein, des pneus qui sont des surfaces caoutchouc noires, etc. Il va les faire tailler par des artisans de façon à faire des sortes de couronnes, des objets d'art, comme par exemple ici. Donc un travail encore linéaire, mais qui va prendre du relief au sens strict. Il va travailler aussi sur le graphisme en faisant des détournements d'objets, souvent une matière. C'est en faisant se rencontrer une technique artisanale méticuleuse de graphisme et des... Ça, c'est des carrelages de charcuterie. C'est la marqueterie de charcuterie. Et c'est à la taille d'un carrelage. C'est-à-dire que vous... Et personne n'ose marcher dessus. Donc. Alors, c'est un détournement. Et tout à coup, l'ordre et le désordre, l'organique et le... L'organique et puis le géométrique. Hein. C'est rencontre d'univers qui ont l'air d'être apparemment opposés et qui dialoguent. Comme par exemple ici. Là aussi, un camion Ben fait uniquement à l'emporte-pièce avec des artisans qui travaillent en découpe au laser sur du métal. Donc tout d'un coup, une sorte de réseau de linéaire gothique appliqué à un engin de chantier, au contraire, qui semble très lourd et tout écrasé. Ça, c'est typique de Wim Delvoye, le Belge. Et là encore, c'est une cathédrale gothique faite à l'emporte-pièce avec des matériaux et, on a encore son camion. Et voilà un détail de ces structures. Hein, où on a à la fois la ligne qui devient volume, etc. Alors, ah oui, c'est... Alors, Wim Delvoye, c'est un peu un... C'est un fou, hein. C'est un fou, c'est un fou, mais voilà. Alors, j'ai... Je ne sais même plus comment sortir de là, ça tombe bien, c'est la fin. Donc, écoutez, ben voilà, je crois que normalement, là, on pourrait continuer hein, sur ce principe, mais... Donc, regardez, chaque fois que vous voyez une ligne, regardez-la autrement. Et donc, la semaine prochaine, on commence un voyage alors,
en Turquie,
10 000 ans en arrière, au cœur de la Turquie, des recherches actuelles. Hein,
c'est une grande course qui commence la semaine prochaine, ouais. Et après, on s'interrompt pour les vacances.
Oui, on s'interrompt pour les vacances, mais je ferai l'introduction au nouveau cours dès la semaine prochaine.
D'accord.
Sur Satalüyük, ce site turc. Satalüyük. Satalüyük, C-C-D-A-T-A-L. Et notamment... figurine de déesse assez stupéfiante. Donc on va... On remonte totalement dans le temps. Et voilà. Ah ben là, oui, vous allez voir.